Bonjour à tous, bienvenue à votre Cinébrunch. Mon nom est Jim Boulay en compagnie de François Genet et de Mélina Lopez-Nadeau, comme chaque semaine. Bonjour.
Oui,
bonjour.
Bonjour. Bonjour, chers auditeurs. Merci d'être à l'écoute encore une fois de cette émission Cinébrunch pour la 102e pour le 102e épisode.
C'est moins éclatant quand même.
Oui, bon, on va arrêter d'en parler éventuellement.
Oui, ben c'est ça, éventuellement 103, je pense que ça va faire
ouais,
ça va passer sous
jamais 203 comme on dit.
Donc, très fort.
C'est ça. ben voilà, Cinébrunch pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, c'est un magazine de cinéma radiophonique et balado diffusique que vous pouvez écouter en rediffusion sur notre site web cinebrunch.com ou encore sur votre application de téléphone intelligent, Google Play Music ou encore iTunes ou toutes ces belles choses. Sinon, cette semaine, comme chaque semaine, on discute de différentes critiques de films et on aborde un ou plusieurs sujets. Et cette semaine, le gros sujet de l'émission, c'est l'annonce officielle de l'arrivée de la, on peut pas dire la chaîne, là, mais du réseau, du système, de la plateforme.
Hein, oui, de la plateforme, c'est ça.
Disney Plus, donc plateforme de diffusion en temps réel, dont Mélina va nous parler dans quelques minutes.
Oui.
Bon, voilà, je voulais avoir le consentement. Très important, le consentement.
Oui,
bonjour.
Tout à fait.
Donc, oui, c'est ça. Sinon, c'est ça. On va vous proposer un peu plus tard
des critiques
films,
de films.
C'est ça.
Aussi, tout à fait.
Oui, François, tu as été voir Zombieland.
Oui, Zombieland 2, le double tap, le doublé, en fait, en français.
Oui.
Donc, le deuxième Zombieland, très hâte de vous parler de ça.
Ben oui,
deuxième demi-heure.
Et moi également, je vais vous parler donc du film The Laundromat, film Netflix, original, avec des bons acteurs, quelque chose qui promet. Donc tout ça un peu plus tard dans l'émission. Sinon, en attendant, quelques nouvelles, François.
Oui, ben en fait, le film d'animation Abominable, il y a une belle petite nouvelle alentour de ça. Ben généralement, en tout cas, généralement, les films d'animation, c'est pendant le mois qu'il est fait. Là, j'ai pas pu aller voir Abominable.
On te force pas, hein, en passant, c'est vraiment par choix que tu les fais.
Il y a le consentement quand même dans cette histoire-là, mais j'ai trouvé une nouvelle par rapport à ça, même si je critique pas le film. En fait, le film Abominable a déclenché vraiment une vague de protestations en Asie à cause d'une scène montrant une carte controversée.
Hein?
Oui, tout à
avec
fait.
Avec le Tibet?
Non, avec la Chine et la mère de Chine, Méridionale. Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de complexité dans cette histoire-là, donc je vais essayer de ne pas me mettre un pied dans la bouche en parlant. Je ne suis pas un expert des conflits en mer de Chine méridionale. Il y a quand même pas mal d'histoires qui se passent là-dedans, mais en fait, c'est que ils ont mis un symbole, un genre de U, c'est une ligne en U, un genre de... une ligne en 9 traits qui représente, dans le fond, la volonté de la Chine de dire que cette mer-là leur appartienne.
Oui.
Et ils ont mis ça sur la carte qui était sur le mur dans Abominable qu'on peut voir
donc,
pendant...
Donc, il faut quand même regarder avec attention si on veut s'intéresser à ça. Là.
Effectivement. Et donc là, il y a des gens qui ont commencé à dire, bon, ben là, le chef de la censure en Malaisie a dit, ben, on va... Oui. Il a dit, on va autoriser la sortie du film si et seulement si la carte est retirée du film. Finalement, ils n'ont pas décidé de le retirer du film, donc il a été censuré et donc le film ne passe pas là-bas. Au Vietnam aussi, il y a des problèmes là-dedans, parce que c'est vraiment un gros problème que les Philippines, la Malaisie, c'est tous les pays autour...
On est dans une zone géopolitique, là.
Exactement. Et donc là, on est rendu dans un film qui est quand même destiné aux plus jeunes.
Ben oui,
et au final,
totalement
en arrière de tout ça, on empêche les jeunes de voir un film au final qui pourrait
pour
les intéresser.
Qui les intéresse même pas, en plus.
Exactement. Ouais. Et en même temps, d'un autre côté, mais d'un autre côté, c'est intéressant parce qu'il y a quand même, c'est un film américain, c'est DreamWorks, mais il y a aussi un studio chinois qui a travaillé là-dessus. Donc, on peut voir que c'est pas pour rien qu'ils ont mis ça. Et potentiellement aussi, on sait que les jeunes, veulent pas, quand on leur montre quelque chose, ça devient une normalité un peu. Et ça, c'est un symbole quand même, supposément, là-bas, quand même connu de ce que j'ai pu comprendre, que dès qu'on voit ces 9 traits-là, on sait que ça représente la volonté de la Chine à dire « c'est notre territoire, cette mer-là », puis « touchez pas à ça ». Donc, c'est aussi le côté de dire inconsciemment aux jeunes et à la nouvelle génération, on va essayer de rendre ça comme si c'était normal, puis comme quoi que, ben oui, on voit tout le temps ça comme ça, donc c'est normal que la Chine ait l'emprise sur ces eaux-là. Donc, tout ça est potentiellement aussi derrière ce geste-là.
C'est fascinant,
donc,
oui.
C'est assez fascinant comme nouvelle. Donc, en tout cas, vous pourrez aller regarder plus ça en détail si ce conflit-là vous intéresse, mais c'est quand même, moi, je trouvais ça important d'en parler quand même, parce qu'on n'en parle pas souvent, puis je me suis rendu compte en googlant en 3-4 minutes que ben, au final, il y avait beaucoup, beaucoup de conflits dans ces eaux-là, dans le fond, dans ces places-là. Et au final, on n'en entend pas tout le temps parler.
Non, parce que ça doit être très, très régionalisé à l'Asie.
Oui, exactement. Mais au final, ça a des impacts quand même assez
intéressants. Oui, ben, on parle quand même de politique d'envergure.
Oui.
Moi, j'étais pas au courant de la situation non plus. C'est pas sans me rappeler les anecdotes entourant donc les films Bernard et Bianca et d'autres films de Disney où il y avait de la pornographie insérée dans le film en très, très, très... micro-image, donc comment on appelle ça? Oui, un frame.
Ah oui?
Extrêmement rapide. Mais à l'intérieur d'un décor, évidemment, ça avait été démenti comme étant une volonté de Walt Disney, mais bien simplement le fait que des créateurs ont décidé de s'amuser à faire ça.
Ouais.
Chose qui ne passait pas du tout aujourd'hui.
J'étais pas au courant de ça, et pourtant, c'est un film que j'ai réécouté souvent.
Oui, mais c'est pendant l'espèce de trajet sur l'Albatros,
ouais.
Ça va très, très vite. Puis dans une des fenêtres, on pourrait voir, je pense, une femme en soutien-gorge.
Wow. Bon, il y a beaucoup quand même des choses comme ça dans les films de Disney.
Il y a pas mal d'histoires, des
nuages en forme de trucs.
Oui, il y a beaucoup de subjectivité. Je pense que les créatifs aiment beaucoup s'amuser. Mais là, c'est différent. On voit vraiment une volonté politique.
C'est ça, c'est pas juste un Easter egg pour le fun, c'est vraiment il y a peut-être un côté politique derrière tout ça, donc c'est fort intéressant de regarder ça et de le savoir au moins. Je pense que c'est important
absolument.
De savoir ce
après
genre
ça,
de choses.
Est-ce que ça intéresse vraiment le public cible du film? J'en doute fortement.
Effectivement.
Bon, c'est des choses qui arrivent. Donc merci François, c'est peut-être que plein de gens en politique vont aller voir le film grâce à ça.
Tout à fait.
On sait jamais. C'est une possibilité.
Ouais.
Bon, mais de mon côté, je vous parle. En fait, c'est officiel. L'actrice Jennifer Lawrence s'est mariée au marchand d'œuvres d'art, Cook Maroney.
Elle sortait pas avec le réalisateur du film Mother?
Écoute, il y a plein de
théories sur ça.
Théories sur ça.
Ben, c'est particulier.
Mes rêves s'envolent avec son mariage.
La réponse est dans Abominable, le film.
Oui, exactement.
Oui, c'est ça. Il y a une petite photo, peut-être. Je sais pas.
Oui, en fait, la carte photographie de la c'est relation est là-dedans.
Peut-être.
C'est pas du tout de ça que je vais vous parler, sauf que je trouvais ça très drôle. Ah. Donc voilà, je vais vous... non, mais parce qu'on aime les potins, hein, Cinébranche, on est réputé pour parler de ce genre de nouvelles. Moi, je vais plutôt vous parler du 48e Festival du Nouveau Cinéma de Montréal, le FNC, qui a annoncé donc les gagnants, autrement dit les artistes, les productions qui ont remporté des prix. Rapidement, trois. Beanpole, du cinéaste russe Kantemir Balagov, un jeune cinéaste de 28 ans. Le film raconte l'histoire d'une amitié entre deux jeunes femmes en 1945 à Leningrad. Donc, c'est une ville qui a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ouais.
Super intéressant. C'est pas sans me rappeler... parce qu'on s'entend que l'homosexualité, c'est pas quelque chose qui passe très, très bien en Russie. Il y en a énormément. C'est bizarrement dans l'illégalité qu'on en trouve, mais souvent, les réalisateurs qui mettent en scène l'homosexualité de quelque façon que ce soit se ramassent avec des problèmes avec les policiers, se ramassent en prison. Bref, c'est compliqué. Moi, j'ai été voir un autre film d'un autre réalisateur pendant le FCMS, un film d'un autre réalisateur russe. Malheureusement, le nom m'échappe en ce moment, mais le film s'appelait Kino, qui n'est pas sans nous rappeler l'existence du Kino.
Oui, tout à fait.
Et ce film-là parle... ce réalisateur-là était homosexuel. Il s'est ramassé en prison pendant le tournage de son film. Il a fallu qu'il travaille par la prison. C'est une histoire de fou. Donc, vraiment intéressant. Je serais curieux de voir ce film-là. Peut-être qu'un jour, on aura la chance de le voir là, en Ciné Plus ou d'une certaine façon. Donc, le film Beanpole. Sinon, le meilleur long-métrage de la compétition nationale, c'est The Body Remembers When the World Broke Open, de Kathleen Hepburn, puis là, malheureusement, l'autre nom est assez difficile à prononcer pour moi, donc elle est Maya Thai Feathers, quelque chose comme ça. Sinon, le prix de la meilleure interprétation de la compétition internationale pour son rôle dans le film A White, White Day, est remis à, encore là le nom, Ingvar E. Sigurdsson, un truc du genre.
Oui,
donc,
oui,
j'aime bien
ça doit être proche
apprendre
que ça,
à prononcer ça. Des mots. C'est toujours très intéressant.
Oui, on se sent revivre.
C'est ça. Sinon, c'est maintenant le moment où Mélina va nous parler de Disney, mais juste avant, j'ai un petit intermède musical pour l'occasion. Et oui, vous avez reconnu le thème de Walt Disney.
Hein, oui, oui,
ben oui.
Picture, je pense.
Oui.
Ah, et mon Dieu, j'en mets toujours un petit peu plus.
Oui, on reconnaît beaucoup de choses, en fait.
C'est
non,
excellent.
Non, c'est ça. Oui, directement de YouTube. Donc, c'est ça. Mais non, en fait, tu as une annonce officielle de la part de Walt Disney, right?
Il a cogné à ta porte.
Oui, oui, ben, il m'a appelé hier
Sacré
soir.
Walt.
Oui,
ah.
Oui. Et, ben, vous savez, il est gardé dans la glace. Donc, on l'a dégelé pour l'occasion pour que je puisse me lancer un petit coup de fil. Non, mais sans blague, on dit que la plateforme va être disponible à partir du 12 novembre 2019. Donc, c'est très bientôt. On est à quelques semaines de ça.
Oui, ça arrive.
Oui, donc on va avoir des séries, des films, documentaires, l'œuvre de Disney, de Pixar, de Marvel. Mais c'est pas mal ça. Mais chose intéressante, c'est qu'on va avoir certaines nouveautés, certains contenus originaux, un certain contenu original, dont certaines séries sur l'univers de Marvel, du MCU.
Oui.
Donc, une série sur Falcon, une sur Hawkeye, une sur Loki.
Oui.
Une autre intéressante.
Ça fait quand même beaucoup
qu'on veut miser là-dessus. Là.
Oui. Qui sont annoncées, des originals qui sont annoncés dès le début. Ils ne sont pas un peu répartis à travers le temps. Fait que je ne sais pas s'ils vont soit sortir la même journée. Là, peut-être
non,
pas,
mais
là,
c'est mais ça. Il y en a qui sont annoncés pour sortir cette journée-là. Il y en a qu'on dit, bon, ça va être plus à la fin de l'année 2019. Il y en a que ça va être plus début 2020. Il y en a qu'on a juste dit. Il y a un tournage qui va se faire, mais c'est
projet,
même pas encore.
Ouais,
c'est mais c'est vraiment pour créer, je pense, une espèce d'engouement vers le service. Une série qui a l'air quand même intéressante au niveau de Marvel, c'est une série qui va s'appeler Marvel's What If. Donc, Marvel
ici.
Qui se passe, qui va se passer dans un univers alternatif de Marvel. Donc, on va pouvoir explorer quelque chose d'autre, mais on dit qu'il va avoir quand même le cast qui va être là. Donc les personnages, on va avoir les vraies voix, donc ça
je sens que ça va créer une petite polémique, je pense, chez certains fans.
J'ai hâte de voir ça.
De voir
si c'est bien fait, ça peut être
bien passé. Oui, oui. Ouais.
Il y a aussi, on a annoncé un She-Hulk, donc Hulk femelle.
On n'avait pas annoncé qu'il y aurait un film avec Natalie Portman dans le rôle de Thor fille.
Oui, oui.
Thor-S, comment on dit ça, je sais pas.
Oui, ben ça c'est que ça s'en va au cinéma.
Oui, c'est ça. Ok, c'est
là,
ça.
Là, ce que je parle de contenu original qui va sortir directement sur la plateforme. Donc ça c'était pour Marvel, pour Star Wars on a annoncé aussi. Donc The Mandalorian, la première live-action série de Star Wars qui va sortir.
C'est donc intéressant.
Oui, puis ça va être disponible en fait dès le 12 novembre. Puis
c'est
des grands noms qui sont attachés à ça. C'est Jon Favreau est le showrunner de ça.
Wow.
Donc, ça se passe après les événements du retour du Jedi. Donc, très intéressant. Et sinon, 7e saison de Clone Wars.
Il y a encore du Clone Wars?
Qui va sortir, ça va être la dernière saison qu'on dit, elle va sortir.
Pas fini. Ben justement,
il ramène
une nouvelle.
Il ramène une dernière.
En exclusivité sur Disney Plus. Wow.
C'est ça, en février 2020. Donc, ça va être très intéressant. On a parlé aussi d'un prequel de Rogue One, une série aussi sur Obi-Wan. Qui se passera entre les autobus 3 et 4. Épisodes 3 et 4, pardon.
Je sens, Jim, que tu trippings, patience.
Je ne peux plus, là, je veux dire. C'est une super bonne nouvelle.
C'est ça. Et ça, c'est juste Marvel et c'est juste Star Wars. Et là, ensuite, du côté des autres trucs, peut-être qu'ils vont vous parler un peu moins. On a annoncé une série sur High School Musical, The Musical. Donc,
c'est vrai, oui. On en avait parlé un petit peu rapidement, je pense. Qu'on avait
oui, moi, je, ça, moi, ça, ça me tombe, moi, ça me parle pas vraiment, mais ça peut intéresser des gens. On
oui,
a
François
aussi...
sourit, là.
Ben, écoute.
C'est ton enfance.
Ben, High School Musical, hein, écoute, j'ai écouté ça. Hein,
ah oui,
ben,
okay, avec le gars, puis... qui chante.
Ben, le gars qui chante, ben, tout à fait. Mais moi, je suis un fan de comédie musicale. Fait que c'est sûr que. Quand
vous avez vraiment ce point-là en commun, tous les deux.
Oui, ah oui. Ben, quand
oui,
même.
Quand
bon,
même
on
quand
le savait
même
pas. Mais oui, c'est ça. Ben, fait que c'est sûr que ça m'a touché un peu, mais c'est sûr que c'est un peu. Bon, c'est un peu pour.
Mais là,
pour
tu vas avoir une série que tu vas pouvoir regarder. Dieu. Ça va être super.
Je sais pas, je vais être capable de rentrer là-dedans, mais tu sais, le premier, c'est classique parce que c'est classique.
Oui.
Mais après ça, le restant, parce que j'étais j'étais jeune, ça crée des liens dans ma tête. Là, tu sais, des fois, quand
ouais.
tu es jeune,
ouais. tu t'en souviens comme étant vraiment, vraiment très bon. Mais quand tu le revois après, c'est moins bon.
C'est différent. Ouais. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est j'ai ça, des bons souvenirs, mais de le revoir, je sais pas. Ça fait longtemps que
c'est ça. C'est comme quand, quand Netflix a sorti la suite de j'allais dire de Charmed, mais c'est pas ça, là, de Gilmore Girls. Vous savez, ils ont sorti une suite un an ou deux. Les gens disaient,
c'est comme la
suite.
La nouvelle génération,
ouais,
un peu. Là.
Ben, avec les actrices originales, ouais. mais ils sont rendus aujourd'hui un peu, tout ça. On refait la même chose avec Lizzie McGuire, la série de le personnage de Hilary Duff.
Oui, oui, oui.
Ils vont créer
C'était sur Disney Channel aussi que ça
passait, je pense.
Ils essaient de rattacher aussi tout leur contenu. Comme il y a déjà une chaîne, je pense qu'ils essaient aussi de reprendre des épisodes qui étaient là-dessus.
Ouais.
Puis d'essayer de créer plus de contenu, mais sur Disney+.
Mais parce sur que ça, fait que là,
la force de Disney, c'est un peu d'avoir ces franchises-là, d'avoir ces univers-là, puis d'avoir l'argent pour faire ce qu'ils veulent à travers ça.
Exactement.
Faire autant de
spin-offs,
de trucs entre
contenu. Ça marche définitivement.
Pour vrai,
les gens, ils sont attachés à ce qu'ils ont vu. V'là 10, 20 ans, et on aime ça retourner dans un univers qu'on a aimé.
On aime en savoir plus. Je pense juste à Star Wars. Rogue One, c'est un succès total, ce film-là. Donc, Disney a les capacités financières et capacités de sérieux d'aller chercher des bons acteurs, des bons producteurs, des bons réalisateurs. Moi, je pense que ça peut être intéressant.
Puis la dernière que je vais vous parler, qui m'a quand même donné une petite... j'ai peut-être envie de l'écouter, celle-là. Vous vous souvenez du film d'animation Monster Inc? Je me souviens pas du titre en français.
Tout à fait.
Monster Inc, je m'en souviens aussi en français. Ouais. Ouais.
Donc, vous vous souvenez, je ne vais pas rien divulgâcher, mais juste toute la fin du film. On termine le film et on décide qu'on ne fait plus peur aux enfants, mais qu'on les fait rire pour donner de l'énergie, pour accumuler de l'énergie.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Donc là, on va avoir une série qui est la suite, qui se passe comme plus tard, où on voit les personnages, donc les monstres qui vont faire rire les enfants, les difficultés, tout ça. Donc on se plonge dans cet univers-là qui nous a un peu été laissé.
Il y avait eu
Université.
L'Université des monstres, tout à fait, qui avait été là.
Mais là, il va sous la forme de série. Fait que ça, c'est intéressant.
Ouais.
C'est ce qu'on parlait la semaine passée.
C'est un autre médium, c'est intéressant.
Le transmédia,
J'ai hâte de voir... De quel âge à quel âge va être le public cible principal? Ça doit être assez large en ce moment, c'est très familial.
Je pense que c'est très large, oui.
Mais parce que je veux pas Star Wars Endgame, on est quand même assez loin de
Marvel
Inc.
aussi.
Ça vient chercher...
Je pense que c'est la force de Disney aussi, c'est qu'ils ont, ils ont tout le monde, en fait, dans le sens où quelqu'un de 3 ans regarde des films animés puis va être capable de trouver ça le fun. Puis ils ont du contenu aussi pour.
Ils ont beaucoup de documentaires aussi.
Ils ont aussi des documentaires.
Ça, c'est super intéressant parce qu'ils vont en sortir des nouveaux aussi, un peu sur eux-mêmes. C'est-à-dire un documentaire sur quand on a fait tel film. Ils vont créer du contenu documentaire basé sur leurs propres images d'archives. Donc, ils en ont annoncé quelques-uns. Ouais. Je ne les ai pas dans mes notes en ce moment. Mais ça aussi, ça peut être super intéressant à voir. Donc, la machine est là. La machine est prête à rentrer à la guerre contre Netflix,
Ça va jouer très dur. Les actions de Netflix sont en chute libre en ce moment.
Définitivement,
Donc, on va voir ce qui va se passer par rapport à ça. Mais chose certaine, moi, je suis curieux. Là, on n'a pas passé à travers la liste. La liste est sortie. On sait quels films vont être là le 12 ou en tout cas peut-être dans la première année, là, on pourrait dire ça comme ça.
Ouais.
Quels films sont annoncés? A priori, il va sûrement avoir des changements.
Et on sait que les nouveaux films qui sortent au cinéma vont être sur la plateforme aussi.
Oui.
Comme les Star Wars qui s'en viennent, les Avengers, tout ça, vont se retrouver là aussi. Donc le Endgame aussi, on dit qu'il devrait être disponible assez rapidement aussi. Donc c'est intéressant quand même.
Oui, c'est quand même intéressant. Et là, moi, il y a deux choses en fait qu'on veut faire. On veut jouer un espèce de jeu.
Oui, on peut appeler ça
un espèce de combat des films de Disney pour savoir lesquels, dans ceux qui sont disponibles, qui seront disponibles plutôt, lesquels on amènerait sur une île déserte.
Mm-hmm.
Donc là, il va falloir négocier parce qu'on peut en emmener seulement 3 et on a tous des choix et des goûts différents. Il va falloir juger de négociation. Fait que ça, c'est dans quelques instants. Juste avant, moi, je suis curieux, à chaud comme ça, là. Allez-vous vous abonner?
Définitivement.
Oh, OK, Milna, c'est direct.
Je pense pas pour le début, mais moi, je suis pas très non plus...
Toi, t'es très Blu-ray.
Je suis très physique.
On va sûrement... T'es connu comme étant une personne très physique.
Non, mais c'est ça, je suis pas encore très Netflix et toutes ces affaires-là. Je suis pas encore de mon temps de ce côté-là. Fait que j'ai pas les réflexes encore, mais qui sait?
On va voir ce qui va se passer. En tout cas, Mélina est déjà d'accord.
Mais c'est que, moi, je c'est me questionne. Comparaison...
Mais sachant que tu vas t'abonner, j'irai le voir avec toi.
c'est qu'en en comparaison, mettons, on compare Disney à, par exemple, le Crave qu'on a ou Prime qu'on a. Sur Prime, sur Crave, le choix est quand même
limité.
Des choses plus...
C'est assez limité.
C'est pas tant ça. Il y a du stock, mais c'est du contenu plus underground, des trucs moins connus. C'est vrai. Des choses. Il y a des films de Disney, moi, que ça fait longtemps que je veux voir, que j'ai pas nécessairement la chance, qui se retrouvent pas sur les plateformes qui sont là. Donc, ça va donner accès à du gros contenu. Puis moi, c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que ça donne accès à des classiques.
Ouais, puis souvent, ces affaires-là, quand ça débute, ils ont pas beaucoup de contenu. Sauf que là, c'est totalement l'inverse. Ils arrivent avec déjà un catalogue assez bien garni. Puis beaucoup d'original aussi.
Oui, oui. Puis moi, c'est ça qui me fascine. Netflix a été long avant qu'ils commencent à faire des productions originales. Au début, j'étais des licences. Ils sont vite rendus compte qu'il y avait quelque chose à faire.
Ils étaient presque les seuls au début. Fait que c'est sûr qu'il y avait moins de compétition.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de compétition.
Tu sais, le fameux moins t'as de compétition, moins tu as besoin de faire d'efforts pour avoir un bon contenu.
Classique. Donc, on verra ce qui va se passer avec Netflix. Mais là, entre-temps, on joue à notre petit jeu. Notre petit jeu, c'est simple. On est trois. On a chacun.
Oui, ben là, en fait, il y a la partie film d'animation et film en vraie personne.
Moi, je propose qu'on commence par les films d'animation.
On peut commencer par les films d'animation.
Films d'animation, on a chacun trois films dans notre liste et qui sont des films qui seront sur Disney+, la nouvelle plateforme de diffusion de Walt Disney. Et on doit convaincre, dire déjà pourquoi on a choisi ces films-là, mais convaincre les autres de choisir un total de trois films pour envoyer sur l'île déserte.
Ouais.
Après, il faudrait y aller nous autres aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, commençons directement, François.
Et Mondo, OK. J'ai regardé rapidement la liste et c'est des films qui sont venus me chercher, mais je ne sais pas si... c'est toujours des affaires de moment aussi, ces affaires-là. J'ai choisi Aladdin. Le classique, évidemment, le vieux.
Oui.
Pas celui en prise de vue réelle. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un de ces films-là qui représente cette époque-là, un peu musical, un peu chant, puis un peu très le début de Disney. Ouais. Je trouve que c'est intéressant d'en apporter un comme ça. Sinon, j'ai Histoire de jouets 3. parce que je pense que Histoire de jouets, c'est un qui est justement un peu après le côté...
Ben, c'est le meilleur, en tout cas.
Non, non, mais dans le sens où il y a une époque avant qui est le côté Aladdin, le Roi Lion, il y a des chansons dedans, puis c'est plus
c'est pas la même génération.
Après ça, il y a la génération après, justement, Histoire de jouets puis toutes ces patentes-là. Il n'y aura pas le 2 de ce que j'ai vu dans la liste, mais il y avait le 1 et le 3, et juste pour la fin du 3, moi, ça m'a...
Ah oui,
le
3 est
la fin du 3 m'a cassé, puis pour ça, je pense que je veux le revoir en boucle.
Oui, oui, oui.
Sinon, après ça, je remonte encore dans le temps un petit peu. Quoique Toy Story 3, Histoire de jouets 3, c'est pas si vieux que ça. Mais quand même, Les Incroyables.
Oui, The Incredibles.
The Incredibles.
T'as remarqué là-dedans, toi?
Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, le petit côté agent secret. Je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant.
C'est le bébé, là, avec le bébé.
J'aime pas les dessins de cette. C'est bizarre, hein? J'aime pas ces dessins-là.
Ah, moi, je suis rentré à fond là-dedans. Ah, ouais. Puis le côté, justement, super-héros, mais agent secret. Puis je trouve que c'est plein de c'est un ramassis de plein de patentes intéressants. Sinon, là, j'en nomme d'autres sur ma liste un peu que je l'ai mis là. Puis peut-être qu'ils vont se retrouver sur d'autres listes aussi. Bernard et Bianca, on en a parlé tantôt. Je le savais pas qu'il se passait ça. J'avais fait la décision avant de savoir qu'il y avait un flash frame. Mulan, sinon, un grand film aussi. Empereur Nouveau Genre, qui est un petit peu différent aussi, avec la narration du personnage qui vient faire de quoi d'intéressant. Donc, ce genre de film-là, à peu près.
Mais tes trois, là, ce serait
Aladdin,
Toy Story, qui est trois.
Puis, et Les Incroyables.
Les Incroyables. Ouais. OK. Mélina, de ton côté.
C'est moi qui y va. Donc, moi, j'ai choisi le film Inside Out. Donc, vice-versa. Film de Pixar.
Pixar, oui.
Ah
oui, OK.
C'est Pixar, oui.
Mais, film que je pense carrément extraordinaire parce que la complexité des notions de psychologie qu'on aborde, les émotions, qu'on démystifie ça pour les enfants d'une façon qui est tellement facile à comprendre pour eux à l'aide de personnages. Je trouve ça absolument fantastique. Je pense que ce film-là, moi, je l'ai vu, je pense, 2 ou 3 fois et je pourrais le revoir encore là, sans jamais me tanner parce que à quel point on aborde des concepts, c'est phénoménal. Sinon, moi, toi, t'as pris Aladdin comme
de cette période-là.
Toi, évidemment.
Moi, évidemment, j'ai appelé ça les Aristos Miaou, mais je voulais dire les Aristos Chats.
Évidemment. pour ne pas se tromper. Mais
pourquoi les Aristochats? J'adore ce film parce que c'est un film qui est complètement éclaté. La fin me fascine tout le temps parce que, bon, vous savez, le piano, ça tombe d'étage. Puis là, à la fin, il joue dans la rue. Puis
c'est moins embarqué dans ce film-là, moi.
Mais c'est un peu plus flyé.
C'est un peu flyé, quand même.
Ouais. Moi, j'aimais déjà à cet âge-là les trucs flyés. Donc, ça m'a tout de suite parlé des chats qui jouent de la musique. Qu'est-ce que tu veux de plus?
donc, c'est vrai, vu comme ça.
Oui, puis j'ai souvent des... Je veux dire, je me promène dans la rue, je vois des gens qui marchent, ça me fait penser aux petites naines là, qui marchent, puis là, les chats, ils les imitent aussi, puis ça me fait rire. Donc, les Aristochats jouent beaucoup dans ma tête, à la base, dans la vie, en général.
Pas besoin de dîner plus, dans le fond.
Ben non, c'est ça. Ça revient. Ils sont passés tout le temps. Ouais. Les chansons aussi m'accompagnent souvent, donc c'est pour ça qu'il est dans ma liste. Donc, on va se battre, je pense.
Oui, tout à fait.
Et le troisième, j'ai pris Monster Inc., parce que aussi, je trouve que c'est un film qui a un côté très touchant, médiatisant. J'aime le concept, j'aime comment on twist la fin. Donc, on part d'une situation, on fait peur aux enfants, on se tait. Comme je l'ai dit, on a déjà divulgué le film, donc je vais m'en donner à cœur joie. On twist ça de bord, puis là, on les fait rire à la fin. Je trouve ça aussi un petit baume.
Écoute, moi, je suis curieux. En tout cas, étonnamment, il n'y a aucun doublon dans tous nos choix. Donc, je suis étonné. Je me serais attendu qu'il y aurait eu des doublons.
C'est un peu triste, quand même.
Je vais vous présenter mes choix et je vais vous dire surtout pourquoi mes choix sont meilleurs que les vôtres dans ce cas-ci. Parce que mes choix ont été faits non seulement en fonction de mes goûts, mais ça donne qu'en plus, c'est les choix parfaits pour une île déserte. Okay. Donc, je vais vous expliquer. Je vais commencer d'abord, premièrement, par Le Livre de la Jungle, la version de 1967. Quoi de mieux quand on est perdu sur une île déserte que d'avoir Le Livre de la Jungle? Parce que, premièrement, c'est des leçons de survie, à la base, contre les singes maléfiques et contre les serpents, bref, les ours paresseux. C'est merveilleux, les panthères autoritaires. Donc,
les panthères autoritaires.
Le Livre de la Jungle. Même les colocs qui n'ont pas pensé à celle-là. Wow. Donc, Le Livre de la Jungle de 1967, film qui, à mon sens, n'a jamais été détrôné, même si je n'ai pas détesté la nouvelle version qu'ils ont fait récemment. Prise de vie réelle, quasiment. Là. C'était bien, là, c'était très bien, mais ça ne bat pas la version originale de 1967. Donc, moi, Le Livre de la Jungle sur une île déserte, ce serait mon premier choix. Deuxième choix, Le Roi Lion. Bizarrement, personne ne le dit, ça m'étonne énormément. Film, encore une fois, qui se passe dans la nature, où on essaie de survivre.
Ouais, mais des fois, tu veux t'évader aussi. Le deuil des gens qu'on a perdu. Dans la savane, là.
Ben, je sais pas, hein. Ben, ouais, en tout cas, peut-être. Et finalement, Fantasia 2000, qui est gros très nature. Film musical, donc en fait l'inverse d'une comédie musicale dans le sens où l'image a été faite en fonction de la musique. Le temps file à une vitesse de fou. Alors, c'est le moment de s'attaquer violemment pour cette dernière minute de l'émission.
Mais moi, c'est parce que j'ai pas mis Fantasia, parce que je les ai pas vus encore.
Ah, c'est
encore
une bonne raison.
Moi, à voir.
Moi, j'ai pas vu Inside Out, mais je sais que je veux le voir, je sais que ça va être très bon, fait que... J'ai tendance à dire que Inside Out pourrait rentrer dans le top.
OK. Inside Out, moi aussi, je serais assez d'accord.
Ça peut être intéressant aussi tout seul sur le désert de
bon,
penser à ses
émotions.
Est-ce qu'on
juge que Inside Out est...
Inside Out est là.
Alors, Inside Out est là. Ensuite...
Ça nous prend un vieux. Fait que j'imagine qu'entre Aladdin, Aristochat ou...
Ben, Aristochat, malheureusement, je trouve que ce film-là est super, mais c'est un film qui mériterait d'être fait aujourd'hui. Il est un peu mal vieilli au niveau visuel. Et
c'est vrai
qu'en
prise de vue réelle, ça serait une balade.
Vraiment être bon à refaire ce film-là. Ouais. C'est pour ça que personnellement, je ne le prendrais pas. Je pense que Le Roi Lion, par contre, est un incontournable. Si j'étais vous, je le prendrais.
Entre Le Roi Lion et Aladdin, bon, à la limite, j'ai un peu plus accroché sur Aladdin, mais... On peut laisser passer Le Roi Lion, je pense.
Je pense que moi, j'ai plus accroché sur Le Roi Lion qu'Aladdin, mais tant qu'à ça, j'irais avec Bambi ou Dumbo.
Mais il n'a pas été nommé dans les choix de personne, donc ça passe pas.
Donc, Le Roi Lion.
Alors, super. Le Roi Lion.
Et
on avait choisi Inside Out.
Oui.
Et là, tous en cœur, on a décidé de prendre le film
L'Histoire de Jouets 3.
Ah, c'est beau.
Et
hein,
on était trois à dire Histoire de Jouets 3. Moi, je pense...
J'avais peur que quelqu'un dise en anglais.
Oui, je sais pas pourquoi quelqu'un aurait dit ça en anglais. Non,
communique.
Tout à fait. Oui, on se parle comme ça sans se parler. Mais ça faisait un peu peur, je trouve. Je pense que les gens qui ont juste allumé la radio à ce moment-là, en fait, je pense qu'on se fait...
Heureusement, ils sont sûrement très, très peu nombreux. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, oui, Histoire de Jouets 3. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un choix de François.
Oui.
Moi, c'est mon Toy Story préféré. Je pense que c'est un des très, très bons films de Disney, mais il en a aussi.
Oui.
Fait qu'on a conclu que donc, comme ça, c'est le fun, parce qu'on a chacun un film qui a été sélectionné.
Ben oui, quand même.
Oui, effectivement.
Fait que, bon, victoire, succès total. Oui, le communautarisme est à l'œuvre.
Félicitations au groupe.
Donc oui, voilà, et c'est ce qui conclut notre bloc sur les films de Disney+, et de cette plateforme qui s'en vient. On va certainement en reparler parce qu'évidemment, hein, Disney+, ça s'en vient. Dans quelques semaines. Mais en attendant, François, tu as été voir pour nous...
Non, je suis allé voir Zombieland, mais oui, attends, mais je sais
on en parle dans plus quelques minutes.
Dans quelques minutes, on aime ça, teaser les gens.
On est comme ça.
On est comme ça.
Je vais prendre le relais, en fait, parce qu'on parlait de Disney+. Moi, je vais vous parler de Netflix. En fait, je vais vous parler du film, plus précisément, The Laundromat, l'affaire des Panama Papers, un film américain réalisé par Steven Soderbergh et scénarisé par Scott Z. Burns, un film Netflix original sorti cette semaine sur Netflix. Le film s'inspire évidemment de l'affaire des Panama Papers, un scandale médiatique qui a secoué le monde en 2016, il y a quelques années. Oui, le temps passe vite. Hein?
Donc,
le film met en vedette Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas et d'autres acteurs, mais principalement ces trois-là. Et dans le film, on suit donc Helen Martin, qui est interprétée par Meryl Streep, qui, suite à la mort de son mari dans un accident, se retrouve face à une compagnie d'assurance bidon. Elle tente de remonter à travers les compagnies fictives pour enfin pouvoir adresser son problème en regardant quelqu'un dans les yeux, autrement dit dans le blanc des yeux. Le film est raconté sous forme de chapitres qu'on appelle des secrets et c'est raconté par les antagonistes, donc les deux personnes à l'origine de ce complot-là, qui brisent le quatrième mur en s'adressant directement aux spectateurs en essayant de donner en réalité leur version des faits. Mais en réalité, on est vraiment plus comme dans le film Vice, là, un film sur Dick Cheney qui est sorti il y a quelques années.
Quelques mois.
Ça fait pas un... C'est pas l'année passée?
C'est l'année passée, mais pas quelques années, je pense. Mais ça me semble l'année passée.
OK.
Je sais pas. Mais en même temps, le temps passe vite.
Mettez-vous
hein,
un S à 1000, vous autres?
Écoute...
Bon, c'est ça la question. donc oui, ça me fait vraiment penser au film Vice, en fait. Donc, on a un éditorial qui est quand même à peine camouflé derrière le fait qu'on suit un antagoniste. Bon, c'est ça. Donc, sinon... L'affaire des Panama Papers, c'est donc une histoire de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale. On parle de compagnies fictives emboîtées les unes dans les autres. Et tout ça est comme vu de l'intérieur par une victime, mais aussi par ceux qui bénéficient de ces stratagèmes-là. Je vous propose d'écouter tout de suite la bande-annonce.
Think of this as a fairy tale that actually happened.
There's confusion over who has to pay.
So they drowned Joe and 20 other innocent people.
And somebody's making money from it.
It all goes back to this law firm, Mossack Fonseca.
So what happens next? What do we do next?
Just try and send money.
It's a scam that goes from Houston to the West Indies to some bank who knows where.
They're getting away with murder.
Which is bad.
Bad? Yeah, bad is such a big word.
Alors oui, je vais être tout à fait honnête, ce film-là est magnifique. J'ai adoré. C'est rare que je dise ça d'un film Netflix original.
Mais c'est quand même Meryl Streep.
Oui, les acteurs sont incroyables. Ce film-là est porté par les acteurs. J'ai eu beaucoup de plaisir à voir ce film-là. On est dans un scénario... disons, un peu incohérent, pour être tout à fait honnête, mais c'est porté par une distribution d'acteurs incroyable. On joue habilement avec des longs plans séquences, une chose qui est totalement impossible à réaliser avec des acteurs juniors, là, si on veut, parce que ça prendrait une éternité, ça coûterait extrêmement cher à faire.
Mais là, une grande équipe ambitieux. De professionnels aussi, pas juste des acteurs, mais des techniciens qui sont...
On se gêne pas de faire des mouvements de caméra, on se gêne pas, on n'est pas du tout dans la sobriété au niveau de la photographie dans ce film-là. Je dis pas que c'est révolutionnaire non plus, mais c'est habile, c'est bien fait, c'est beau. Le rythme est intéressant. C'est, en tout cas, moi, franchement, c'est le deuxième bon film original Netflix que je vois. Après le film de Cowboy, là, j'ai oublié le titre. Que tu n'avais pas aimé.
Oui, le film de Noël.
De Noël.
C'est une chronique de Noël.
Non, c'est pas Noël, mais en tout cas, il y a plusieurs films enchaînés. Bon. Donc, bref, peu importe, ne nous élaborons pas sur le fait que j'ai aucune mémoire. Et continuons.
Donc, toi, les plans séquences, ça marcherait pas, mais...
Non, les plans séquences, c'est de toute beauté.
Oui, non, avec ta mémoire, c'est... Mais oui, donc... dans le fond, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, ce genre de sujet-là, dans le fond, on revoit ce genre de sujet-là au cinéma vraiment longtemps après. Tu sais, de Post, par exemple, des affaires, ouais, avec des scandales.
Mais c'est pas si
des
vieux.
Fois, des fois, ça, là, c'est pas si vieux.
C'est vrai que souvent,
On attend vraiment que les choses, qu'on comprenne plus, des fois, ce qui s'est passé aussi. Ouais. Puis que les choses aient un petit peu retombé, que la poussière se soit replacée, disons-le comme ça. Mais donc là, est-ce que tu sens que c'est trop tôt au niveau du sujet? Est-ce que le scénario, parce que le scénario a dû prendre un an à faire, j'imagine, ou je sais pas trop, parce que ça fait trois ans.
Excellente question. Je pense que ce film-là est un espèce de règlement de compte sur l'injustice sociale, économique, davantage. Le sujet est un prétexte. Ce qu'on veut vraiment, c'est nous montrer cette injustice-là de façon plus globale. Dans les faits, c'est intéressant parce qu'on a une application pratique du problème. Mm-hmm. On a une personne qui arrive un accident, la compagnie qui est assurée est en fait assurée avec une fausse compagnie qui n'existe pas vraiment. Il essaie de remonter. Ces compagnies se distribuent en forme de papier d'une personne à l'autre. Et tout ça est vraiment passionnant. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est raconté par Antonio Banderas et Gary Oldman sous forme de narration où on brise définitivement le quatrième mur. On essaie de raconter.
Ça m'a fait penser un peu au film The Big Short. Je ne sais pas si tu te souviens, le film en 2016 là, où il parie contre la crise économique.
Oui, exactement. Mais ça, c'est plus un documentaire, par contre.
Oui,
non,
mais
c'est
Big Short, c'est plus un documentaire.
Ben, c'est pas un documentaire, il y a Steve
Carell.
C'est
une fiction, mais c'est tourné un peu, mais c'est un narrateur aussi.
Tu veux dire, c'est plus au niveau des faits.
Oui, c'est plus fidèle à la réalité. Là, on est vraiment, on invente des choses. On sort du truc, on voit comme... On voit les gens qui participent à ces fraudes-là dans leur habitat naturel. Ça, c'est quand même intéressant. Non, moi, en tout cas, honnêtement, sérieusement, c'est sur Netflix. Allez le voir.
Est-ce que tu penses que, justement, l'avantage d'un Netflix ou des plateformes comme ça peut nous permettre d'avoir des films sur des affaires plus récentes, peut-être?
Absolument.
Est-ce qu'en cinéma...
Au niveau de la distribution, c'est beaucoup plus facile.
Oui, c'est ça.
Parce que dans ce cas-ci, c'est produit par la compagnie qui distribue. À la base, ils ont le monopole, ils ont le choix de faire... C'est déjà comme pré-autorisé, autrement dit. Une fois qu'ils donnent le contrat...
Il y a plus de flexibilité aussi.
Exactement. Vous allez voir que c'est pas si simple que ça dans un sens, parce que... pour terminer avec le film, en réalité, il y a des incongruités dans le scénario. À cause de ça, je pénalise un petit peu le film. Mais ça passe quand même bien à cause du genre de film. Donc ça passe. Des fois, on est comme dans une espèce de comédie noire là-dedans. Des fois, on est vraiment dans le drame. C'est un peu particulier. Mais je veux absolument parler de la vraie histoire, le vrai scandale qui date de 2016. Les informations sur ce scandale-là ont été révélées grâce à une fuite de documents d'un employé, un John Doe de la firme, qui a décidé de révéler ça, d'envoyer ça à des médias européens. Et là, par la suite, c'est devenu une véritable enquête médiatique sur tous les continents.
Il y a plusieurs personnes qui ont été forcées de démissionner, de quitter leur poste à cause de ça.
Il sait pas. Ah oui, il y a énormément de pression. On voyait la puissance. Il y a des présidents d'Europe qui ont démissionné à cause de ça. Il y a un paquet d'affaires, comme tu dis. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que on parle de fraude, d'évasion fiscale, d'affaires criminelles, de choses comme ça. Mais en fait, le film a failli ne pas être diffusé du tout parce qu'imaginez-vous donc que les avocats de la firme qui est au cœur du scandale ont demandé une injonction à un juge du Connecticut pour forcer Netflix à annuler la sortie du film sous prétexte que ça allait montrer un portrait un peu mensonger de leur client. Et heureusement, à mon avis, la juge a refusé l'injonction et le film est maintenant sur Netflix et exclusivement sur Netflix parce que c'est un original. Ouais. Et donc, moi, je vous recommande fortement d'aller voir ce film-là, de regarder ce film-là dans le confort de votre foyer. Ça dure 1h30, c'est divertissant, ça passe vite, c'est relativement drôle malgré tout. Ils réussissent à amener ça d'une façon assez humoristique.
Okay,
c'est bien joué. C'est le fun de voir les plans de caméra, de voir les plans séquences. C'est super beau. Un film à voir.
Tu donnes quelle note, toi?
Je lui donne un 8.5 sur 10. Il y a des incongruités, là, comme je vous dis, scénaristiques, mais ça passe là, dans le genre. Donc, de Laundromat, l'affaire des Panama Papers, c'est sur Netflix. À voir quand vous pourrez.
Merci, Jim.
De rien. Et François est allé voir pour nous un film de zombies.
Oui, tout à fait. Zombieland.
La terre des zombies. C'est ce que ça a été traduit ou c'est Zombieland aussi?
Non, c'est Zombieland, le doublé. Il y en a plein, il y a des affaires, le retour, je pense qu'en France, c'est le retour à Zombieland, bon. Parce que, bon, tout plein de...
Ouais, on revient toujours. Façon, hein. Hein, j'ai vu du corps du roi dans un magasin aujourd'hui.
Ah, donc, tout est possible.
Voilà. Non, tout est possible.
et donc, Zombieland, le doublé, moi, j'avais vu Zombieland dans le temps, mais ça, c'est un film qu'il faut comprendre que le premier film est sorti il y a 10 ans et était sorti en octobre.
OK.
Et là, il est sorti en octobre aussi, c'est vraiment 10 ans...
Pour Halloween,
pas jour, pas jour pour jour, mais presque, là, on va
se dire. Ça.
Donc ça, c'est quand même intéressant comme petit fait divers, comme petit fait divers. C'est assez intéressant. Synopsis, où c'est qu'on s'en va avec ça? Alors, écoute, les quatre personnages principaux, Columbus, Tallahassee, Wichita et Little Rock, se déplacent au cœur de l'Amérique et ils vont affronter des zombies qui sont évolués. Donc, il y a des zombies qui sont plus forts que ce qu'on a vu dans le premier tableau. On dirait que c'est dans le premier tableau de jeu vidéo.
On dirait que tu joues, là. Oui, c'est ça.
Oui, tout à fait. Et donc, là, il va y avoir des survivants, la souffrance, qu'est-ce qui se passe. Et là, il va y avoir des problèmes, mais aussi des problèmes à l'intérieur de cette petite famille improvisée, de ce petit groupe de quatre personnes qui s'est créé. Donc, qu'est-ce qui va se passer là-dedans? C'est intéressant. On va pouvoir, en fait, on peut tout de suite écouter la bande-annonce avant de parler de la distribution et du reste.
10 ans se sont écoulés depuis l'apocalypse zombie. Oh my God, we're back again. Et cette famille dysfonctionnelle...
Joyeux Noël!
Tu veux savoir ce que j'aimerais?
Je m'en contrefous de ce que t'aimerais.
...a survécu en faisant preuve de discernement.
Je suis ultra douée pour la survie.
Allez, encore en vie, parce que les zombies se nourrissent de cervelle et qu'elle a rien dans le crâne.
Et en respectant les règles,
on zigouille des zombies.
Alors quand même, hein, on sent quand même.
Quelle bande-annonce. Hein.
Oui, quand même. Ouais. Et donc, oui, ça commence dans le fond dans la Maison Blanche. On a des scènes quand même assez intéressantes de ce côté-là. La distribution, en fait, on va y aller tout de suite avec la distribution avant de l'oublier. Hein. Qui oublierait la distribution? Hein? Alors, en fait, c'est les quatre mêmes acteurs qui étaient là dans le premier en 2009. Donc ça, c'est intéressant que ce soit les mêmes parce que c'est les mêmes personnages. Donc ça aurait été un peu poche. Mais quoi qu'on a, ça s'est déjà vu. Donc Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone et Abigail Breslin, qui sont les quatre acteurs vraiment principaux de ce Zombieland 2, le doublé. Alors, c'est réalisé par Ruben Fleischer, qui avait réalisé aussi le premier, qui a réalisé Venom plus récemment.
Ouais, c'était pas un succès, là, tant qu'à moi, Venom, mais bon.
Mais hein, écoute, on pourrait dire ce qu'on voudra.
Ben voilà.
Et les auteurs, ce qui est intéressant, c'est que bon, c'est les auteurs qui ont écrit, entre autres, Deadpool. Et de ce qu'on a pu entendre, j'ai vu des entrevues sur le sujet. Bon, supposément que ça fait longtemps qu'il voulait faire un deuxième film de Zombieland. Le premier avait été un franc succès. Hein? Les gens s'étaient beaucoup déplacés au cinéma pour aller le voir. C'est devenu presque un film, même si c'était pas une trilogie ou un, tu sais, c'était quand même devenu un film assez culte, entre guillemets, pour certaines personnes. Donc, il y avait quand même un petit buzz autour de ça. Et finalement, supposément qu'ils attendaient qu'ils écrivent Deadpool. Puis là, ils ont dit « Ah, j'écris Deadpool, fait que je peux pas écrire Zombieland 2. » Puis les autres attendaient d'avoir un bon texte pour réussir à faire Zombieland 2. Finalement, ils ont fait Deadpool 2 avant de faire Zombieland 2.
Ah, c'est là, fou, comment le système, hein?
Ouais. Oui, ben c'est ça, Deadpool. Puis il y a juste eu 2 ans entre les deux Deadpool. Puis finalement, on a attendu 10 ans pour avoir le deuxième de Zombieland.
Ça, c'est la force de Marvel.
Oui, exactement. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui a sorti plus d'argent que quelqu'un d'autre dans cette histoire-là.
Probablement.
Mais donc, on va parler un petit peu du film. Moi, comme je l'ai dit au début, j'ai vu ce film-là, mais je ne l'ai pas revu récemment. J'ai juste vu une fois au secondaire. Là, j'étais quand même assez jeune. Puis, donc, j'avais des petites bribes un peu. Je me souvenais que c'était drôle puis que j'avais quand même apprécié généralement, globalement. Mais je ne me souvenais pas nécessairement de tout ce qui s'était passé dans ce film-là. Et dès que j'ai commencé à regarder le film, j'ai fait... Ah ouais, c'est vrai, c'était ça le ton, c'était là qu'on allait.
Fait que tu savais qu'il avait gardé ça, là.
Oui, ben c'est ça, dès que je l'ai vu, j'ai fait « Ah ouais, OK, on est là, tu sais. » Et là, la grande question, je vois dans tes yeux, Jim, que tu me dis « Mais si j'ai pas vu Zombieland 1,
est-ce que je
peux voir le deuxième?
Ouais. »
Hein? Ça, c'est toujours la grande question pour les doublés.
Non, le premier non plus.
La réponse, c'est « On s'en fout, il est sur Netflix. »
Oh, peut-être, qui sait. Mais non, en fait, la réponse, c'est « Oui, ils reviennent quand même avec les les éléments de base, ils les remettent un petit peu au début du film. Mais c'est sûr qu'il y a des clins d'œil que tu comprendras pas.
Tu vas apprécier plus en voyant le
premier. Exactement. Donc, tant qu'il y a
deux de quelque chose, on suggère fortement de voir le premier.
Des fois, c'est assez séparé. Mais tu sais, au début du film, commence des gens en disant « Ouais, ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu, merci de venir voir le deuxième.
» Oui, et c'est dans la bande-annonce, je pense aussi.
Donc, ils sont très là-dedans, et c'est ça, Zombieland aussi. C'est le côté autodérision, c'est le côté très parodique, entre guillemets, aussi, la comédie, même s'il y a de l'horreur, puis c'est intense quand même, parce qu'il y a des scènes là-dedans, cœur sensible, savent se tenir un peu.
C'est dégueu?
On tue des zombies, là. Fait qu'il y a des zombies qui arrivent. Et c'est quand même assez bien fait, là. Pour vrai, il y a même juste le début du film, il y a l'infographie. Une des forces de ça aussi, c'est dans Zombieland, il nomme des règles qu'il y a. Dans Zombieland, le premier, il faisait ça. Et là, il ramène les règles aussi. C'est les mêmes règles qu'il y avait. Mettons, les règles pour survivre comme des zombies. Règle numéro un, c'est le cardio.
Être en
forme pour être capable de courir, pour s'évader. Et là, les règles arrivent et tu les vois en infographie, arriver à côté d'eux, écrit en gros. Puis bon, fait qu'il aime ça beaucoup, jouer avec le côté l'infographie, les textes qui arrivent, il joue avec ça. Et donc, ça crée des choses qu'on voit moins souvent au cinéma et qui sont très bien réussies. Mm-hmm. C'est très beau. Donc, ça, c'est
comme un bon PowerPoint, là.
Et mon Dieu, ça fait... Dans les dernières fois que j'ai utilisé PowerPoint, c'était pas si beau que ça, mais
Google Slide, on peut appeler ça comme tu veux.
On peut appeler ça comme on veut. Donc c'est ça, pour ça, c'est vraiment assez intéressant. Sinon, c'est ça, faut aimer l'humour, cet humour-là, c'est pas pour tout le monde. Mais c'est ça.
Quel type d'humour? Tu veux dire l'humour un peu gore?
Violent, ouais.
Ouais, un peu gore quand même. C'est sûr qu'il y a des scènes de où qu'on tire des zombies,
ça explose,
il y a du sang, il y a des affaires. C'est très...
Des oreilles qui revolent.
Oui, ils peuvent avoir des affaires comme ça un peu qui arrivent, mais c'est très bien fait. Sauf que. Puis il y a des scènes d'action où il y a des gens qui oh mon doux, il va se faire pourchasser par un zombie, puis qu'est-ce qui se passe? Mais ils essaient toujours de ramener un peu l'humour là-dedans, puis de mettre ça à un deuxième degré un peu, puis de rendre ça un peu plus léger. Mais c'est sûr que si tu montres ça à quelqu'un qui aime pas les scènes de violence tant que ça, ben c'est sûr qu'il va avoir du sang. Là. Même si c'est pris drôle un peu parce que c'est des zombies, puis il essaye d'alléger un peu le sujet, mais quand même, il y a des scènes quand même qu'il y a du sang, puis c'est violent, puis ça revole un peu partout.
Mais les gens mangent quand même du popcorn pendant le film.
Oui, puis pour vrai...
ça, j'ai toujours de la misère avec ça.
Moi, en tout cas, ça m'a pas...
Ça t'a pas donné envie de pas manger ton popcorn?
J'en avais pas, fait que déjà ça aidait. Mais ça m'a pas dégoûté parce que justement on est dans une comédie. Fait que moi j'ai été capable de dire je pense
au premier degré.
Je pense puis je sais que c'est des zombies, puis que c'est de l'infographie, puis c'est pas super. Mais tu sais, il y a des gens qui vont au miss, il y a des affaires. Il y a des scènes qui peuvent choquer un peu. Sinon, autre que ça, je veux dire, c'est un support de bon film pour ce genre-là. C'est un genre qui est pas pour tout le monde, comme je l'ai dit. Mais ça marche et c'est bien fait. Et la technique est là. Les acteurs jouent bien leur rôle. Puis comme là aussi, ça fait 10 ans qu'ils savaient qu'ils allaient reprendre.
Ben oui, c'est quand même cool. Puis heureusement, c'est tous des acteurs qui sont encore assez actifs. Fait que c'est pas si mal.
Exactement.
Ça s'est bien passé.
Tout à fait. Donc, on joue sur plein de petites affaires aussi, plein de petits clins d'œil. Il y avait des clins d'œil avec Bill Murray dans le premier. On voit son nom passer des fois, il y a des petits clins d'œil, donc qui sait, moi je dirais que rester à la fin, jusqu'à la fin,
pour les surprises, donc après le générique.
Et tout le temps, rester jusqu'à temps que quelqu'un vous enlève de là.
Ouais, ok, c'est bon.
Un petit 24 heures au complet, là, pour être sûr de tout voir.
Oui, oui, c'est ça, il y a plein de petits clins d'œil, il y a plein de petites affaires, puis eux autres sont là-dedans, sont dans les clins d'œil, eux autres sont là-dedans, puis c'est bien du fun. Fait que moi, je donne un 8. Un 8 sur 10, c'est un bon film quand t'es dans ce mood-là, pour vrai.
C'est un peu dégueu, mais...
Ouais, c'est ça. Quand t'es entre amis, ça marche. Là. C'est peut-être pas le meilleur film de date, mais...
On va t'aller au curling, puis ça, mettons. Là.
Écoute...
Non, je prendrais le curling. Quand
même. Ouais, c'est deux bonnes options, Jim. Écoute, mais non, c'est ça, effectivement. Il y a des petits clins d'œil partout, puis les fans de Zombieland vont apprécier. Et... Il y a même des pourparlers, supposément, pour un Zombieland 3. Oh. Si ça marche bien, ils ont dit qu'il y a peut-être qu'il y aurait un Zombieland 3. Et à date, je pense que...
Il va peut-être pas se laisser désirer si longtemps que ça. Si
peut-être
ça
pas un autre
10 ans.
Je pense que là, ils ont compris le message. À moins qu'un Deadpool 3 et 4 sont dans la ligne de mire, je sais pas.
Un Deadpool est vite arrivé.
Oui, évidemment, c'est le grand classique. Hein.
Excellent. Merci, François. Donc, un 8 sur 10 pour ce film.
Oui, tout à fait.
Moi, j'aimerais bien qu'on discute par rapport à ça. Bon, 10 ans entre un film et sa suite.
Ouais.
On a vu ça quelques fois. On a vu ça récemment avec Rambo 5. On a vu ça, on va voir ça dans quelques mois, en fait, avec dans quelques Terminator. Semaines, avec Terminator.
Tout à fait.
Ouais. C'est encore là, beaucoup d'années qui séparent le présent. Matrice, exactement, qui s'en vient. Il y a eu, il n'y a pas si longtemps, Robocop, il y a eu Judge Dredd. Il y a eu énormément de films.
Comme je disais, tantôt, d'émission aussi sur Disney. Disney qui ramène des vieux trucs comme Lizzie McGuire. On revient à ça, on fait une nouvelle série avec ça. Un sequel avec la même actrice.
Soit on fait une suite, soit on refait. Des fois, c'est des remakes, mais souvent, on fait une suite où on joue dans l'univers étendu de la série ou du film.
Et des fois, on touche, c'est ça, à des choses qui étaient quasiment cultes, qui étaient devenues cultes, quasiment.
Oui,
exact. Et qu'on croyait plus qu'il allait avoir de suite à cette histoire-là parce que c'était bouclé, c'était scellé, tout le monde se disait, tu sais, Matrix, par exemple,
ça finit en cul de poisson un peu, là.
Oui, mais tout le monde était comme, ben oui, c'est les trois films, la Matrix, puis bon, certains diront, le quatrième l'animatrice diront qu'elle rentre là-dedans, mais bon, ça, c'est les films, la Matrix, puis on a passé un autre appel, tu sais.
Ouais.
Après ça, bon, peut-être qu'un jour, ils vont refaire le premier, ou bon, quelque chose bon, du genre, si jamais ça vieillit mal dans 20 ans.
C'est une bonne question, ce qu'ils vont faire le premier, mais d'après moi, celui qui va venir va être
bon. C'est le troisième qui veut le faire, mais qui veut le faire. Mais c'est de dire, qu'est-ce qui porte...
Pourquoi
on réouvre?
Pourquoi on devrait y aller? T'sais.
Pourquoi on devrait y aller? Parce que qu'est-ce qu'on le fait? J'imagine, c'est encore l'économique. C'est ça. C'est l'argent de dire, en trouver un nouveau concept qui va bien fonctionner ou vaguer.
Je pense pas que c'est tout le temps pour l'argent.
Mais je pense qu'il y a un concept humain là-dedans de psychologie que c'est réconfortant de se replonger dans un univers qu'on a aimé.
Dans le connu, de revivre des choses avec un petit peu de différence, mais c'est doux pour l'adaptation.
Mais est-ce que aussi,
on change le divan de place, mais on change pas le divan.
Est-ce que ça serait pas non plus pour les créateurs plus que pour le public?
C'est aussi, ça aussi. Qui se font plaisir
C'est ça aussi. Ben oui. Est-ce qu'il peut en avoir, comme Zombieland, par exemple, les acteurs, t'es comme, on avait le goût de revenir là-dedans. Tu sais, quand ils ont fait Dans une galaxie près de chez vous le film, c'est parce qu'ils avaient le goût de se retrouver
en gang.
C'est rendu une famille qui se retrouvait, qui avait tellement une fun qu'ils ont dit, on a le goût.
On serait du fun.
Même si à la limite, ça passe pas nulle part, ils l'auraient fait, tu sais, quasiment.
Parce que c'est pas des très gros budgets non plus.
Non, c'est sûr, dans ce cas de ces films-là, mais Zombieland, c'est plus gros, évidemment, comme budget. Puis je pense que même si on dit, est-ce que la vibe est encore là? Est-ce qu'on est encore capable de revenir avec la vibe qu'on avait après le premier? Est-ce qu'on est capable de réveiller ça? Ils ont dit, on va le faire pareil parce qu'on a du fun.
Exactement. Mais maintenant,
Il y a un autre point aussi, des fois, qui arrive, que j'avais lu en parlant la semaine passée de Indiana Jones. Quand ils ont sorti la série Les Chroniques du jeune Indiana Jones, c'était en fait parce que c'était la grève des scénaristes. Donc, les scénaristes n'écrivaient plus à Hollywood, faisaient la grève.
Oui, mais il y a eu un paquet d'affaires choses qui se sont passées pendant cette période-là.
Oui, donc c'est ça, il n'y avait plus de scénaristes. Donc, ils sont allés dans le coffre-fort, là, si on veut.
Retrouver des
épisodes qui n'avaient pas été faits. Ils ont fait ça, finalement, la grève a terminé. Mais là, ils avaient commencé à travailler sur le projet. C'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de transformer le projet et de faire finalement les chroniques du jeune Indiana Jones parce que finalement, les scénaristes étaient libérés. Puis, il n'y avait plus travaillé là-dessus. Quand des fois, c'est une question de grève de scénaristes.
Moi, je me souviens de l'épisode de la mouche de Breaking Bad qui était écrit dans ce concept-là, qui est le seul épisode que je skip automatiquement quand je regarde la série. Donc, quel épisode long, inutile et plate. Un scénariste important, on va se le dire. Mais on s'éloigne. Moi, je veux savoir, qu'est-ce qui fait que nous, on approuve, on désapprouve, on va se rendre au cinéma ou pas pour aller voir un film qui sort d'une série de films ou d'un univers de films 10 ans après? Pourquoi on ferait ça?
Mais parce qu'on fait une émission de radio, donc on va voir le film pour nos auditeurs.
Non, mais je pense que la curiosité de savoir qu'est-ce qu'on a fait avec cet univers-là...
comment on a détruit ou amélioré
l'univers. C'est le concept, le fameux concept de ma sœur qui, à chaque fois qu'ils font un live action de Disney, elle dit « Ah non, ils vont scraper La Belle et la Bête, ils vont scraper Aladdin, ils vont... » Tu sais, dès qu'elle voit l'annonce, elle fait comme « Ah, mon Dieu! »
Elle est positive comme toi,
en fait. Ça, tu sais. Elle dit « Ah, mon Dieu! » Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Est-ce qu'ils vont scraper oui ou non? Parce que c'est tellement des classiques, fait que tu veux pas qu'ils scrapent, mais en même temps, elle peut pas s'empêcher d'aller le voir d'un côté parce qu'elle veut.
Des fois que,
mais elle veut voir ce qu'ils ont fait quand même pour dire ben oui, je savais ou pour dire pour dire au moins je sais ce qui s'est passé. Tu comprends?
Oh, ouais, je comprends.
On est curieux, c'est un univers qu'on aime.
Bon, on est curieux d'accord. Après ça, comme tu dis, c'est un univers qu'on aime. Est-ce que la volonté, comme tu disais tantôt, psychologique de se replonger dans des moments nostalgiques qu'on a vécu. Est-ce que ça doit appeler ça?
C'est un univers connu. on aime, généralement, l'humain aime retourner aux endroits qu'il connaît parce que ça a un côté rassurant.
Oui, c'est ça.
C'est quoi, qu'il a aimé. Pas de quoi tu parles.
Non, mais je veux dire juste un exemple simple. Quand tu te retrouves toujours les mêmes personnes assises à la même place, généralement, les gens, naturellement, vont finir par s'asseoir, par prendre la toujours même chaise.
Comme nous, à chaque semaine, on s'assoit exactement à la même
oui,
place.
Oui,
c'est vrai.
On fait l'émission.
Et là, moi, si tu veux.
À chaque semaine, je me déplace un peu plus vers le mur. Je sais pas pourquoi ma chaise. Je sais pas pourquoi ma chaise est placée tout le temps un petit peu plus loin à chaque fois.
Non, mais c'est vrai. Donc, il y a un curieux réconfort dans les choses qu'on aime, dans les univers qu'on aime. Ça fait du bien de se replonger là parce que on connaît les règles déjà de cet univers-là aussi.
Oui.
Donc, quand on connaît les règles, c'est réconfortant.
C'est moins demandant. Oui. C'est juste pour sauver des calories.
Oui, puis on veut en savoir plus aussi. Oui. Moi, je pense juste à Star Wars, les spin-offs, oui. les films qui sortent du canon. Ils sortent pas tant du canon, mais qui sortent de l'univers direct. On a envie d'en savoir plus sur certains personnages, on a envie d'en savoir plus sur
mais on est plus critique aussi parce qu'on aime l'univers.
Oui, mais ça, c'est là qu'il faut faire attention. Un jour, on aurait fait une émission où on parle des puristes en cinéma. Est-ce qu'on a le droit de réinventer ou on est obligé de respecter les bonnes vieilles règles du métier? Ooh. Mais ce sera le sujet d'un autre épisode parce que c'est terminé pour Cinébrunch cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. Mon nom est Jim Boulay, Mélina Lopez-Nadeau, François Genet. Merci d'avoir été là chaque semaine. Merci à nos auditeurs. On est en rediffusion à toutes les semaines, le mardi à la même heure. Sinon, on est en direct ou presque, le samedi à 11h. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre Cinébrunch. À bientôt!
Bonne semaine!
Bonne semaine!